Bonsoir Maria Melchiordi. Alors j'espère que, je vous dis comme alors, j'espère que ça va vous plaire ce soir. Bah oui, parce que l'heure a sonné, c'est celle du métal. Et comment se passer des maîtres du genre ?
Sick!
Enter Sandman, c'était le titre inaugural d'un album à côté duquel il était difficile de passer en 1991, bon, si vous étiez né évidemment, quels qu'aient alors été vos goûts. Je veux parler d'un album du groupe californien Metallica, auquel beaucoup, c'était mon cas, se sont intéressés cette année. L'année 1991 donc, où... Eh bien, beaucoup ont acheté le second album de Nirvana, Nevermind aussi. Il faut dire que cette période a marqué pour une certaine frange esthète parmi les amateurs de rock, celle des Inrecuptibles, pour ne pas la nommer, un tournant que tout le monde d'ailleurs n'a pas pris facilement. De fait, quand vous ne juriez que par des groupes comme les Smiths ou R.E.M., ou même que vous veniez de découvrir avec enthousiasme les Pixies, c'était dur, au début, d'admettre que le nouveau Messie avait pour nom Kurt Cobain. Pourquoi ? Bah parce que Nirvana et le mouvement grunge étaient issus en partie d'une sous-culture marginale dans le rock, celle du métal. Et que certains amateurs de rock, en tout cas ceux qui tenaient le haut du pavé dans la presse parisienne, tenaient pour infantiles et même carrément ineptes. Alors d'ailleurs, j'ai pas honte de l'avouer, oui, je faisais partie de ceux qui ricanaient ou haussaient les épaules quand on leur parlait de métal. Une demi-écoute de l'album de Nirvana m'a néanmoins converti immédiatement au grunge, c'était un début, mais enfin l'honnêteté me pousse à l'avouer, j'ai eu du mal à admettre que Kurt Cobain et ses camarades citent comme une de leurs influences essentielles Black Sabbath. Oui, Black Sabbath, un groupe que j'écoutais à 11 ans et que par la suite j'avais jugé une fois pour toutes puéril et caricatural. Grave erreur. Et pareil, quand j'ai découvert Metallica, nous y voilà, un groupe qui était déjà vénéré par les amateurs et les connaisseurs de métal, mais ignoré du grand public, eh bien, voilà, j'ai viré ma cutie. Cet album sorti en 1991 à la pochette toute noire, frappé d'un serpent enroulé sur lui-même, dégageait une telle force, une telle puissance, que j'en ai oublié tous mes préjugés et mes idées toutes faites sur le métal. Eh bien, près de 30 ans plus tard, Metallica est devenu le groupe de métal le plus populaire au monde, un des seuls, sinon le seul, que puisse citer le très grand public. Et même les amateurs historiques de rock, au sens large, qui n'ont croisé que rarement la route du métal avec sa myriade de sous-genres, étiquettes absconses dont aiment se griser les passionnés pour mieux s'isoler dans leur passion et en exclure ceux et celles qui ne sont pas exactement à leur image, eh bien... ceux-là, peut-être, connaissent des milliers d'autres groupes, enfin le grand public qui connaît Metallica. Voilà, c'est comme ça. Bref, Metallica entame ce mois-ci aux États-Unis une tournée mondiale qui passera le 12 mai prochain au Stade de France à Saint-Denis. Ce sera la seule date française, hélas, du groupe et c'est déjà complet. Enfin, complet, pas tout à fait, parce que j'ai eu la curiosité de me rendre sur le site du groupe et de cliquer, bah, comme si je voulais assister au concert du Stade de France. En fait, il reste encore des places pour ce que Metallica désigne comme une expérience, entre guillemets, enrichie. Et oui, si vous vous acquittez de la somme de 189€, c'est pas mal déjà, vous aurez droit à un siège, entre guillemets, premium, dans la partie basse des gradins, ou dans un cercle d'or, entre guillemets, bon, c'est sur la pelouse du stade, j'imagine. Alors il y a mieux, enfin il y a plus cher, pour 339€, on vous propose l'expérience All Nightmare Long, hein, jusqu'au bout du cauchemar, un siège réservé dans les 10 premiers rangs les plus rapprochés de la scène, un accès à la Sanitarium Rubber Room, une sorte d'espace VIP, où on vous sert à dîner, il y a un buffet, et où sont exposés des objets et fétiches qui ont jalonné l'histoire du groupe. Alors le plus étonnant, l'expérience Dream No More. Alors faut que vous soyez au courant, il existe des fans de Metallica, extrêmement fortunés, qui ont déboursé 2199€, vous avez bien entendu, pour accéder à un espace privilégié situé juste devant la scène. Mais pourquoi ce prix exorbitant ? Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En plus du buffet gratuit, bon, ça, je dirais, c'est normal. Un personnel spécial s'occupe de vous, bon, d'accord. On vous offre une setlist signée par les musiciens, sympa. Mais surtout, voilà, les musiciens de Metallica sortent de leur loge spécialement pour vous et laissent un photographe professionnel prendre un cliché de vous, fan anonyme et néanmoins fortuné, avec eux. Et voilà, imaginez que cette formule à 2199€ n'est déjà plus disponible. Tout a été vendu, ça devait évidemment être calculé pour un nombre infiniment petit, mais enfin, ça laisse songeur. Alors, on reviendra à Metallica dans les émissions de demain et après-demain, mais le retour de ce groupe de légende qui publie un nouvel album live de ses titres les plus connus, interprétés sur des instruments acoustiques non électrifiés, m'a inspiré ce soir un programme consacré au métal d'aujourd'hui. Enfin, métal d'aujourd'hui dans un style assez traditionnel lié à la fin des années 80 et au début des années 90. Alors, il y aura des groupes de cette période, toujours en activité, vous l'entendrez, et puis des plus récents aussi. Alors, tout de suite, en voici un. Il est nouveau et ancien à la fois, vous allez comprendre pourquoi. Il s'appelle The Legend of the Seagull Man. C'est un groupe qui réunit des sommités du métal, canal historique. On y trouve Brent Hinds, c'est le guitariste d'un groupe américain qui s'appelle Mastodon, qui est apparu à Atlanta il y a près de 20 ans. C'est un groupe qui a mêlé au métal des éléments de psychédélisme et de musique progressive. Il y a aussi le batteur Danny Carey, c'est un des meilleurs de sa génération. Il a brillé au sein du groupe californien Tool. Et puis un mystérieux chanteur qui s'appelle David Dreyer, surnommé The Doctor, dont la voix caverneuse et puissante peut évoquer celle de Josh Homme du groupe Queens of the Stone Age. Alors ces musiciens, et puis d'autres, se sont réunis pour former un groupe qui s'appelle Legend of the Seagull Man, la légende des hommes mouettes. Alors sur leur site internet, on en voit deux avec des masques de mouettes. Et les autres ont l'air de sortir d'un film d'aventure des années 70, sortant d'une mer rugissante, brandissant des armes désuètes, costumées en marins d'opérette. Voilà, ce titre s'appelle Shipwreck. Rainier Fog, la chanson titre d'un album récent signé par Alice in Chains. C'est un groupe qui a marqué l'histoire du métal et qui est toujours en activité. Un groupe originaire de la ville de Seattle, hein, qui fut l'épicentre du courant grunge. L'initiateur du groupe était un très bon guitariste du nom de Jerry Cantrell. Hein, il est toujours là, qui avait rencontré dans cette ville le chanteur Lane Staley. Lane Staley, qui est tristement mort d'une overdose en 2002. D'ailleurs, il avait un point commun avec James Hetfield de Metallica, des parents chrétiens scientistes, un type de foi particulier qui prône qu'à peu près tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie peuvent se régler d'une manière ou d'une autre par la prière. Voilà. On a pu décrire Alice in Chains comme le Joy Division du métal, tant les paroles des chansons interprétées par Lane Staley traduisaient le dégoût profond qu'il éprouvait pour lui-même. Alors on est loin aujourd'hui de cette période et c'est surtout pour sa pure qualité musicale qu'on parle encore aujourd'hui de Alice in Chains, dont d'ailleurs le dernier album, Rainier Fog, a été cité aux Grammy Awards qui ont été décernés dans la nuit de dimanche à lundi dernier, dans la catégorie meilleur album de rock. La récompense a finalement été attribuée au jeune groupe de Michigan, Greta Van Fleet. Tout de suite, un groupe alors beaucoup plus récent, lui qui est apparu vers la fin des années 2000 et qui s'appelle Windhand. C'est un groupe qui vient de Richmond, c'est en Virginie, le centre-est des États-Unis, en plein pays country. Windhand, c'est pas commun à une chanteuse, Dorothea Cottrell, ce qui n'est pas fréquent dans le métal. C'est une chanteuse qui, par ailleurs, j'ai la curiosité d'écouter ça, écrit, interprète des chansons très personnelles entre country et soul, des chansons assez lugubres dans le style de Cat Power. Alors je l'ai appris, évidemment je l'ignorais, mais l'état de Virginie, et en particulier la ville de Richmond, abrite tout un circuit où prospèrent les groupes d'un certain type de métal. Un type de métal qu'on appelle le doom metal. Alors doom en anglais, ça désigne un sentiment de désastre fatal imminent, enfin l'abattement, la sinistrose on pourrait dire. Quelque chose d'oppressant, hein, comme un ciel sombre et chargé où tout semble comme englué, ce qui semble présager de sinistres événements. Alors il y avait des éléments de doom hein, dans le grunge bien sûr, mais enfin ce qui caractérise le doom metal parmi d'autres éléments, c'est la lenteur du tempo. Et chez Windhand, cette lenteur va en même temps avec un certain onirisme psychédélique. Ce titre, qui s'appelle en français dans le texte « Diablery », est extrait du dernier album de Windhand, « Eternal Return », un album qui a été réalisé par une légende de Seattle et du courant grunge. Je veux parler de Jack Endino, qui a travaillé jadis avec Nirvana et Mudhoney.
Mishka Assayas.
Du métal, oui, mais d'un style qu'on pourrait qualifier d'historique, puisque le groupe dénommé Sleep, comme Sommeil, que vous venez d'entendre interpréter ce titre, qui s'appelait Marijuana Theme, est né il y a plus de 30 ans dans la ville de San José, qui est situé dans le sud de la baie de San Francisco. À l'origine, c'est un jeune chanteur et bassiste, Al Cisneros, fanatique du groupe Black Sabbath, tout comme Kurt Cobain, qui a créé ce groupe Sleep, un groupe qui longtemps n'a été connu que localement autour de la baie de San Francisco. C'était avant, évidemment, l'internet et la mondialisation instantanée de toutes les formes de musique populaire. Il y avait encore des styles régionaux qui pouvaient le demeurer longtemps. Toujours est-il que Sleep a réuni à partir de la fin des années 80 à la fois des amateurs de doom metal et de ce qu'on appelle le stoner rock, c'est-à-dire une sorte de dérivé psychédélique du métal, pour aller un peu vite. C'est le genre de groupe, Sleep, qui de son vivant n'a touché qu'un public restreint et puis qui, après sa disparition à la fin des années 90, est devenu, comme on dit, une référence. Eh bien, 20 ans après la mise en sommeil, si j'ose dire, de Sleep, Al Cisneros a retrouvé son compère, le guitariste Matt Pike. C'est un musicien formé à la théorie musicale, au jazz et à l'improvisation au conservatoire. Et les deux, en compagnie d'un nouveau batteur, Jason Ryder, lui aussi originaire d'un groupe de la baie de San Francisco, un groupe qui s'appelait Neurosis, comme névrose, ont remis Sleep en activité. Et c'est la compagnie créée par Jack White à Nashville, Third Man, qui a diffusé l'année dernière un nouvel album de Sleep, le premier depuis 20 ans, intitulé The Sciences, qui a été célébré partout, en particulier évidemment par les spécialistes, comme un des meilleurs, sinon le meilleur, de la carrière du groupe Sleep. À présent, tout autre chose. Alors, on va rester en Californie, mais on se déplace à Long Beach. C'est la ville balnéaire qui jouxte le sud de Los Angeles. Et c'est là qu'il y a une dizaine d'années, un passionné de blues ancien, antique, archaïque même, Jay Buchanan, s'est joint à un guitariste qui, lui, était davantage orienté vers le rock'n'roll classique, Scott Holiday. Alors, ensemble, ils ont créé un groupe qui s'appelle Rival Sons, un groupe que des amateurs ont pu rapprocher des Black Crowes. Les Black Crowes, je sais pas si certains se rappellent, c'est un groupe légendaire venu de Atlanta en Géorgie, un groupe qui, à contre-courant vers la fin des années 80, a ramené un très jeune public qui n'avait pas connu ça vers un blues boogie qui semblait alors tomber en désuétude. Et comme l'a déclaré il y a 5 ans Jay Buchanan des Rival Sons, donc qui se sont pas mal inspirés des Black Crowes, une déclaration qu'il a faite au site québécois Daily Rock, et bien sur scène, nous donnons toute notre énergie jusqu'à la dernière goutte, nous essayons de vraiment faire en sorte, c'est notre but, que le rock et le blues maintiennent leur intégrité. Le tout nouvel album de Rival Sons, Feral Roots, vient tout juste de sortir. Le titre que je vous propose ce soir sur France Inter dans Very Gothic, voilà, je l'ai dit, ce soir s'appelle Do Your Worst. We'll be right back.
Blind your eyes, steal your tongue, get you in your own hand.
Ship on Fire du métal contemporain, tendance industrielle, mais pas seulement, chanté d'une voix rauque et puissante, un métal auquel se mêle un fort élément de gospel et de blues des origines. Le groupe auquel on doit ce titre s'appelle Zeal and Ardor, Zèle et Ardeur. Son fondateur, Manuel Gagneux, est un Suisse qui a grandi à Bâle. C'est un métis, un fils d'un père suisse et d'une mère noire américaine. L'album de Zeal and Ardor, Stranger Fruit, a été un des événements de l'année dans la communauté métal, et le passage du groupe au fameux Hellfest de Clisson l'été dernier a fait sensation. On va à présent retrouver un des musiciens qui a le plus marqué ce qu'on a appelé dans la seconde moitié des années 90 le New Metal ou Neo Metal. Darren Malakian a formé très jeune à Los Angeles, il avait 18 ans, le groupe System of a Down avec d'autres jeunes gens issus comme lui de la communauté arménienne. Il était le seul d'ailleurs à avoir avoir grandi en Californie. Les deux autres étaient nés à Beyrouth au Liban et puis un autre en Arménie à Yerevan. Alors l'influence moyen-orientale est très marquée dans ce titre du groupe de Darren Malakian qui s'appelle Scars on Broadway, un groupe que Malakian donc a fondé avec le batteur de System of a Down, John Dolmayan. Ce titre s'appelle Lives et est extrait d'un album intitulé Dictator.
Let's go where we trace back the light. sur France Inter.
Qui peut rappeler aussi certains climats oniriques et mystérieux de la musique progressive. C'est tout récent, c'était dû à un groupe québécois francophone qui a choisi à sa naissance, il y a plus de 35 ans, de s'exprimer en anglais. Il s'appelle Voivod et son dernier album en date s'appelle The Wake et le titre que vous entendez en ce moment s'appelle Obsolete Beings. Voilà, il me reste juste à remercier Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Loïc Frapsos à la technique, Romain Couturier à la discothèque de Radio France et Zora Ben Smiley pour le site internet. Tout de suite après les informations, vous retrouverez Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. Il accueillera Gilles Bertin pour 30 ans de cavale et la comédienne Constance Delay pour Girls and Boys au théâtre du Petit Saint-Martin. À demain.